Prions. Seigneur, c'est personnellement que je viens devant toi, que je viens réclamer ton aide, ton soutien, que je viens demander que par le Saint-Esprit tu m'éclaires pour que ce que j'ai à dire ne soit pas le fruit de mon imagination, de ma réflexion, oui peut-être, mais inspiré par toi, porté par toi, conforme à ta volonté, conforme à ce que toi tu aurais voulu dire. Je prie que cette parole que je vais partager avec les autres me touche autant qu'il va leur toucher. Je prie pour l'impact de cette parole dans les cœurs de tous, que chacun reçoive sa part d'aujourd'hui, comme une nourriture que nous allons tous savourer, chacun à sa manière, avec ses préférences, ses goûts. Seigneur, parle-nous, à la fois individuellement, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que frères et sœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, servir mon église locale, c'est ça le thème sous lequel nous sommes en train d'avancer. Servir mon église locale pour pouvoir aussi être en mesure de répondre aux questions que les différentes personnes qui viennent dans une église peuvent se demander. C'est quoi une église? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans une église? Comment on travaille dans une église? Nous avons la fois passée fait toute une série, il y en avait quatre, où nous avons parlé du profil du serviteur. À quoi ressemble un serviteur qui doit servir dans l'église? Je ne vais pas revenir sur ça parce que, heureusement, nous avons le grand miracle de la technologie. Nous avons aussi un site internet, publicité non commerciale. Et donc, nous pouvons aller sur ce site et aller regarder les prédications autour de ce thème. Donc, comme ça, on n'a pas à revenir là-dessus. Vous y allez, vous regardez ce qui a déjà été prêché sur ce thème-là et sur d'autres thèmes aussi, bien sûr. Et comme ça, ben, on vous récupère le train en marche. Cette fois-ci, je voudrais commencer notre série, toujours dans ce thème de servir mon église locale. Nous avons parlé de profil du serviteur. J'aimerais maintenant parler de service. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le travail que l'on fait dans l'église? Qu'est-ce qui se fait comme travail? Ce matin, je ne vous propose pas encore les détails dans la structure, l'organisation de l'église. Cela viendra progressivement. Ce matin, je vous propose en guise d'introduction un regard général du travail dans l'église. Et donc, nous allons parcourir cela pour que nous puissions approcher de plus en plus et de plus en plus près de ce que c'est que les services dans l'église locale. Les services ou les ministères. Alors, dans beaucoup d'églises, on aime plus le mot ministère que service. Je vous dis d'avance, ministère, service, c'est la même chose. Bien sûr, dans notre monde d'aujourd'hui, un ministre, c'est pas un chef de service. Un chef de service, il est là, un ministre, il est là. Vous voyez, les hommes aiment les titres. Mais en réalité, bibliquement parlant, même ceux qui sont dans les ministres, dans les ministères, et qui disent « j'ai été fait ministre du Seigneur », vous verrez toujours qu'il se reconnaît comme serviteur. C'est la même chose. Le ministère met plus l'accent sur le travail, le contenu du travail, tandis que le mot « serviteur » met, le mot « service » met plus l'accent sur l'attitude de cœur, l'engagement, la volonté de faire. Nous sommes donc, je l'ai déjà dit, nous sommes donc tous des ministres ou tous des serviteurs du Seigneur dans son église locale. Alors, j'ai beaucoup aimé un truc que j'ai trouvé sur le site des églises, des assemblées de frères de France, une petite réflexion dans leur cahier, où on faisait une réflexion sur l'église locale. Il disait ceci, ça m'a beaucoup intéressé. Il disait, l'église locale, ce n'est pas un paquebot avec son équipage et ses passagers. On peut imaginer ça. que l'église locale, c'est comme un paquebot, un grand bateau. Ceux qui travaillent dans ce bateau, c'est seulement l'équipage. Et ceux qui servent à côté de l'équipage, enfin, l'équipage, c'est aussi les serveurs, tous ceux qui sont dans les différents services. Mais voilà, ce n'est que eux. Et puis les passagers, c'est les clients. C'est eux qui bénéficient de tout, on fait tout pour eux. On pourrait imaginer que l'église serait ça. Non! L'église locale, ce n'est pas un paquebot avec un équipage et des passagers. Non, pas du tout. L'église locale, par contre, et j'ai trouvé cette image très, très, très parlante, l'église locale est plutôt un navire de guerre où tous à bord participent à la manœuvre. Ha ha! Ça, c'est la bonne définition de l'église locale. Hein? Vous commencez à vous dire, oh, pourquoi je suis à l'église, moi? Et moi, je suis pas un militaire, je suis pas en guerre. Mes frères, dès le moment où vous êtes chrétien, que vous le vouliez ou non, vous avez signé la déclaration de guerre contre Satan. Que vous le vouliez ou non, vous avez signé la déclaration de guerre contre votre chair, la nature charnelle. Vous avez déclaré la guerre à votre nature de chair, à votre nature charnelle. Vous avez déclaré la guerre contre le monde. Que vous le vouliez ou non. Dès le moment où je m'identifie comme chrétien, je dis je veux vivre ma vie en tant que chrétien, eh bien, je vais être exposé à des soucis. Le diable ne me laissera pas tranquille. Ma chair ne me laissera pas tranquille. Le monde ne me laissera pas tranquille. Je suis en guerre. Forcément, si moi je suis en guerre, c'est parce que je vais aller dans l'église que Satan va me dire, ah, il est allé à l'église, ok. T'as de la chance, affieux. Parce que rentre dans cette église-là, moi je rentre pas, mais t'as de la chance. Ah non! Il va te poursuivre jusque là-dedans en disant, mais qu'est-ce que je peux encore faire contre lui? Nous sommes, en tant qu'église locale, un navire de guerre où nous sommes tous à bord et nous participons tous à la manœuvre. Autrement dit, l'église locale, c'est un lieu où tout le monde, tous les membres, tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui viennent à l'église sont appelés à servir, à travailler. Bien entendu, on ne sait pas toujours. On n'a pas toujours le même boulot, on n'a pas toujours les mêmes fonctions, mais nous sommes tous ensemble pour travailler. Le problème, c'est quand on commence à se dire, c'est tel qui doit travailler, c'est tel qui doit réparer la table, c'est tel qui doit faire ceci, c'est tel qui doit diriger la prière, c'est tel qui doit faire ceci, nous sommes partis pour des problèmes. Parce que le jour où tel ne saura pas le faire, il n'y aura personne pour le remplacer. Et les critiques commenceront. Il est arrivé en retard. Il n'a pas su venir. Mais comment ça se fait? Mais c'était lui qui devait le faire. Et c'est quoi? Mais ça ne va plus dans cette église. Mais c'est le désordre ici. Mais qui dirige cette église? Mais c'est quoi cette église? Parce que on a oublié une chose. On est tous à la manœuvre. Et quand on oublie ça, qu'est-ce qui se passe? On colle des responsabilités aux autres. Un peu comme nos ministres. C'est pas assez facile avec nos ministres, hein. Quand ça va pas, c'est la faute de Bart de Wever, c'est la faute de, je sais pas moi qui l'a encore, et puis l'autre là-bas. Ils sont tous des incompétents. Ils n'arrivent même pas à boucler un budget. Vous imaginez, ils sont bêtes, ces gens. C'est facile pour nous, hein. Va-toi boucler ce budget-là, tu vas voir ce que c'est. Tu vas transpirer, même peut-être même pire que lui. Nous sommes tous à la manœuvre. Je vous ai déjà dit pourquoi est-ce qu'il faut servir l'église locale. Pourquoi est-ce que nous devons servir? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'autre choix que de servir dans l'église? Nous n'avons pas d'autre choix parce que l'église locale est un corps. Est un corps dont nous sommes tous membres. Et donc, quand un membre se retire, il y a un trou. Quand un membre est déficient, il y a un problème. Notre corps humain, ayez un peu mal à la tête, vraiment mal à la tête, et essayez de travailler en ayant mal à la tête. Allez, on vous coupe le bras, essayez de travailler avec l'autre bras. Chaque fois qu'un membre est coupé, automatiquement, le corps est meurtri. Le corps présente des défaillances. Mes frères, si nous pouvons comprendre ça, comprendre que chacun de nous a un rôle important, de sorte que sa défaillance à lui, son retrait à lui, peut avoir des conséquences sur l'ensemble du fonctionnement. Nous sommes un corps. Refuser de s'engager dans l'église locale, c'est comme poser un acte de désobéissance à la volonté de Dieu. Un peu comme cet ouvrier, ces serviteurs avec les talents là. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça, où l'autre là a pris son talent, au lieu de le faire fructifier, il est allé faire un trou, il a caché ça correctement en se disant, le jour où le maître le réclame, il est là le talent. Hein? Et puis Dieu va lui dire, non, c'est pas comme ça. Il est donc inconcevable d'être chrétien et de ne pas être dans une église locale. C'est pas normal. Parce que l'église est le lieu où Dieu nous met pour servir à l'avancement de son royaume. Réfléchissons à ça. En ce qui concerne le service dans l'église, il y a ce texte de Éphésiens chapitre 4 que je trouve magnifique pour éclairer la vision de Dieu pour le travail. Nous allons le lire. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16. Vous allez voir, c'est vraiment un texte qui est incroyable de richesse pour regarder comment Dieu veut le travail dans son Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Mes amis, aucun mot de ce texte est à jeter à l'eau. Aucun. Tout ce qui est là-dedans est profond, est lourd dans sa signification. Mais je vais, puisqu'il ne s'agit pas de prêcher sur ce texte-là, je vais juste vous faire voir un peu quelques éléments intéressants. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous à travers ce texte. Deux choses à considérer. Ce texte parle bien de la vision de Dieu. L'apôtre Paul est vraiment inspiré par le Seigneur pour dire à quoi doit ressembler le travail dans l'Église. Comment ça doit se faire? Première chose que nous constatons, c'est que dans l'Église locale, il y a plusieurs services. Et celui qui donne les services, qui attribue le travail, c'est Dieu. N'est-ce pas? Verset 11, il a donné. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne les serviteurs. Ce n'est pas les hommes qui décident, tiens, Gérald, tiens, Jonathan, tiens, Marilus. Non. C'est Dieu qui donne. Maintenant, on peut réfléchir sur comment nous arrivons à comprendre que c'est un don qui vient de Dieu. Hein? Ok. Mais c'est Dieu qui donne. Donc, on ne s'attribue pas nous-mêmes. On ne s'auto-proclame pas nous-mêmes. On ne cherche pas nous-mêmes à ce qu'on soit mis en avant. C'est Dieu qui donne. Quels sont les services qui sont là déjà? Ces services sont l'apostolat, apôtre. Vous savez, c'est quoi un apôtre? C'est quelqu'un dont la charge, dont le don spirituel consiste à implanter les églises. C'est celui qui va venir mettre en route une église, mettre en place pour que l'église prenne forme. Ce sont des implanteurs d'église. L'apôtre Paul, voilà, c'était un apôtre. L'apostolat. Un autre service, la prophétie. Et il faut bien comprendre ici ce que c'est la prophétie. Ce n'est pas la prophétie au sens de l'ancienne prophétie de l'Ancien Testament. Parce que cette fonction prophétique-là, elle s'est déjà épuisée. Elle est déjà terminée. Hébreux chapitre 1, verset 1, autrefois, après avoir parlé autrefois, par les prophètes, Dieu, en ce temps, a parlé par son Fils. Le temps des prophètes, comme étant les messagers, les représentants de Dieu, la bouche de l'Éternel, en tant que fonction, n'existe plus. Parfois, je me pose la question de savoir, tous ces gens qui se promènent avec des titres de prophètes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont occupés à faire? La prophétie, ici, il faut la comprendre en termes de capacité que Dieu donne à quelques-uns en termes de dons spirituels pour avoir des paroles qui viennent de Dieu, pour dire les choses de la part du Seigneur. Et parfois, pour certaines circonstances et pour certaines églises, il y a un besoin. Pour d'autres églises, il n'y a pas de besoin. Quand les gens sont capables d'entendre eux-mêmes la parole et que Dieu n'a pas besoin de s'exprimer, il n'a pas besoin de commencer à utiliser des gens. Mais Dieu lui-même, il fait comme il veut. Quand il le veut, il le fait. Évangélistes, ceux qui ont la charge d'apporter le message de l'évangile. Et c'est frappant, vous ne trouvez pas, parce qu'ici, il s'agit d'évangélistes à l'intérieur de l'Église. C'est donc des gens qui ne pas, ils ont cette capacité de former, de préparer les gens à l'évangélisation. Des gens capables d'emmener le peuple de Dieu vers cette charge de l'évangélisation. Et puis on a également des pasteurs. Un pasteur, c'est pas un apôtre. Un pasteur, ce n'est pas un prophète. Un pasteur, ce n'est pas un évangéliste. On peut combiner. Un pasteur peut être aussi en même temps prophète, enfin, tout dépend. Mais un pasteur, c'est d'abord un berger. C'est un responsable du troupeau du Seigneur. Quelqu'un que le Seigneur a mis pour conduire le peuple de Dieu. Un pasteur, sa fonction première, c'est de prendre soin. De prendre soin du peuple de Dieu. Que les gens se portent bien. Que les gens comprennent bien la parole. Que les gens vivent bien leur vie chrétienne. Que les gens ne restent pas malheureux. Ensuite, évidemment, l'autre fonction, c'est évidemment de faire tout ça avec une assise à travers l'enseignement. C'est pourquoi vous remarquez que pasteur est souvent mis en lien avec docteur. Docteur, ce sont les enseignants. Parce que, en général, pour aussi aider les gens à grandir, à être bien, à faire des choses pour le Seigneur, etc., il faut quand même aussi passer par l'enseignement pour les aider à aller de l'avant. Ça, ce sont les fonctions que nous voyons déjà, les services qui se dégagent dans ce texte. Et donc, important de signaler qu'on ne s'improvise pas tout cela, mais que tout cela est donné par Dieu. Maintenant, comment il le fait, c'est une autre chose dont on ne parle pas maintenant. Deuxième chose que je voulais vous signaler à travers ce texte, c'est que le fait d'être responsable, c'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, ce n'est pas le fait que cette responsabilité est destinée à ce que je le monopolise. Ça devient ma responsabilité, je travaille à ça, c'est tout, c'est bon pour moi. Je fais ça pourquoi ? Quel est le travail de toutes ces personnes-là ? Leur travail consiste à emmener le peuple de Dieu dans la perfection par rapport à leur propre rôle. Vous comprenez ça ? Verset 12. « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Le travail des responsables, c'est le travail de faire en sorte que le peuple de Dieu puisse être en mesure d'assumer ses propres responsabilités. Vous comprenez? Donc, de toute façon, que ça soit au niveau de ces responsables-là ou au niveau de l'ensemble du peuple de Dieu, il y a du travail, il y a du service. Les uns sont là pour préparer les autres pour leur tâche. Quel est le travail auquel ils sont destinés? Eh bien, il y a l'œuvre du ministère qui est en fait l'œuvre du service, en quelque sorte, Et c'est l'ensemble de tout ce que chaque chrétien est appelé à faire dans les différents domaines de sa vie. Cette équipe-là est chargée de préparer les gens à faire chacun sa tâche comme il faut, de former les gens, de les équiper, de les entourer pour qu'ils soient en mesure d'être aussi des serviteurs comme Dieu le veut. Et donc, la charge n'est pas de se prendre une position et de dire, voilà, je suis bien dans ma position, je suis là pour moi. Non, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres. Je suis là pour la formation des autres. Je suis là pour travailler afin que les autres puissent aussi aller de l'avant. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Ce travail doit aller jusqu'à l'unité de la foi et l'unité de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais juste aller dans le plus court. Le projet des responsables et de l'ensemble du peuple de Dieu, c'est de faire en sorte que nous devenions un ensemble compact, un ensemble cohérent, un ensemble uni, pas uniforme. Dans le corps du Christ, il y a la diversité. C'est l'unité dans la diversité. Mais que nous soyons compacts, c'est-à-dire que nous puissions nous entendre sur l'ensemble des choses. On est tous sur la même longueur d'onde, sur les points essentiels de la foi. Le salut en Jésus-Christ, le péché, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, etc. Que nous soyons tous ensemble unis pour cela. Et qu'ainsi nous avancions à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, en devenant comme lui, il était ici sur la terre. C'est la seule façon que nous aurons alors de faire face à tout ce qui est danger de récupération, d'être récupéré par des doctrines, des fausses doctrines, des faux enseignements, etc. Mais dans ce texte, il y a un mot qui ressort beaucoup. Au verset 12, vous avez vu, en vue du ministère, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Au verset 16, vous avez encore ce mot-là, édifier. L'édification, ce n'est pas un simple mot dans la Bible, c'est véritablement un mot qui a du sens. Édifier, c'est le fait de construire, de bâtir, vous savez ça? Non? Des édifices, c'est des bâtiments. Vous n'avez vraiment pas l'air de... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Les édifices, c'est des bâtiments. Édifier, c'est construire, c'est faire des bâtiments, c'est faire une maison. Donc l'édification, c'est le fait justement de construire une maison pour Dieu. Donc l'ensemble des services, à la fois menés par certains leaders qui ont la charge d'aider les autres à grandir, tout comme ceux qui servent à la suite de tout ça, eh bien l'ensemble de tous les services a pour but l'édification. C'est-à-dire la construction de la maison spirituelle de Dieu. C'est ça notre rôle. C'est ça le travail. Nous avons comme travail, ce que nous faisons a pour but de pouvoir édifier une maison spirituelle de Dieu. Et chacun, pour sa part, apporte sa pierre de contribution. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, dira que nous sommes des pierres vivantes. Nous allons revenir sur ce texte-là. Des pierres vivantes destinées à construire la maison spirituelle de Dieu. Notre travail collectif, donc, doit contribuer à rendre visible pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, à rendre visible la gloire de Dieu dans le lieu où nous nous trouvons. La maison de Dieu, ce n'est pas simplement un bâtiment au sens de ce que nous avons, mais c'est le lieu de rencontre. Le plus important, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est les gens qui sont dedans. C'est le lieu de rencontre. Les maisons, les pierres vivantes, ce n'est pas le bâtiment là. C'est vous, unis tous autour du Christ, autour du Seigneur. Et vous êtes visibles. Quand vous prenez votre voiture, vos trains, vos bus à pied, vous venez et les gens vous voient rentrer là pour vous rassembler. Nous constituons quelque chose et puis on dit, voilà, nous sommes l'Église protestante. Nous rendons visible quelque part la gloire de Dieu. Nous rendons visible quelque part Dieu dans cette commune d'Otigny. La maison de Dieu, c'est donc le fruit de notre travail collectif. Mes amis, nous croyons souvent que nous sommes les moindres parce que c'est à moi qu'incombe la charge de mettre de l'eau sur ces plantes-là. Alors mon travail, c'est franchement quoi? Hein? Ceux qui nettoient les toilettes là, c'est encore les malheureux parce que parfois ils voient des choses que les gens font, parfois que c'est même pas respectueux pour leur travail. Mais tout ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu contribue à l'édification, c'est-à-dire à la manifestation visible, physique de la gloire de Dieu dans le lieu où nous sommes. Donc, chaque chose que nous faisons est très importante. Donc, nous avons à prendre très au sérieux chaque chose que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons, mais nous devons le faire avec beaucoup de sérieux. La maison de Dieu, comme je vous l'ai dit, est un lieu où l'on apprend à connaître, à servir Dieu grâce à sa parole, où l'on apprend à prier, on apprend à s'aimer, on apprend à s'entraider, on apprend à vivre ensemble selon Dieu, on apprend à accueillir les gens, on apprend à faire de ça un lieu de compassion, un lieu de miséricorde. On accueille tous les gens qui sont malades, les gens qui sont perdus, les gens qui ont besoin de guérison, les gens qui ont besoin d'être entendus, les gens qui ont besoin d'être consolés. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est le lieu où nous, dans nos misères, dans nos souffrances, nous sommes portés, aimés, entourés. C'est le lieu où les gens faibles sont contents d'être là parce que on ne regarde pas leur faiblesse. Où les gens forts sont là pour porter la faiblesse des autres qui sont faibles. C'est ça l'Église. Que Dieu nous pardonne parce que souvent ce n'est pas ce que nous faisons en tant qu'Église. C'est pas ce que nous faisons en tant qu'Église. Actes chapitre 2, verset 42. Qu'est-ce qui se fait? Quel est en rapport avec l'idée de la maison de Dieu? Qu'est-ce que les chrétiens font? Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. C'est pour ça que j'avais dit, l'Église est un temple dans le sens d'un lieu de prière. L'Église est une école dans le sens de lieu d'enseignement. L'Église est une maison, un foyer dans le sens de la communion fraternelle. L'Église, c'est un lieu de culte, un lieu où l'on donne l'honneur à Dieu, où l'on se rappelle de qui nous sommes et de qui est Dieu à travers la fraction de pain. L'Église, c'est tout ça en même temps. Pourtant, si nous sommes destinés, appelés à l'édification, c'est-à-dire à bâtir cette maison pour Dieu, la maison, elle n'a pas que la vocation d'accueillir les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que accueillir. C'est un lieu de formation. Mais on nous forme pas seulement à être des bons chrétiens, à être bien dans notre peau en tant que chrétiens. Non! C'est aussi un lieu où on nous forme pour le monde. C'est pourquoi l'Église est à la fois à vocation d'édification, mais aussi d'évangélisation. Les deux sont les revers d'une même main. Un peu comme deux faces d'une médaille. Édification, évangélisation. Nous allons le voir à travers 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Et c'est là que vous allez voir cette idée de la construction avec les pierres. 1 Pierre 2, 4, 10. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle à un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça ne s'arrête pas là. Pierre développe. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, il s'agit de croyants, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelqu'un suit? Nous avons donc été appelés afin de pouvoir annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Autrement dit, proclamer, évangéliser, faire connaître au monde. Les deux facettes. Dans le même texte, il est question d'édification. Dans le même texte, il est question d'évangélisation. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui aujourd'hui avez obtenu miséricorde. Édification donc et évangélisation, deux facettes de la même médaille. Ce matin donc, mes frères, je voudrais que nous puissions poser cela comme base. Dieu veut que nous le servions tous. On ne sert pas tous de la même façon, on ne sert pas tous au même niveau, mais tous nous servons. C'est un navire de guerre où tous nous sommes à la manœuvre. Dieu veut que nous puissions prendre conscience que nous avons besoin d'être formés pour le service. Et il y a des gens que Dieu a donné dans l'Église pour cela. Ils ont ce rôle-là. Ils doivent pas, eux, dire, puisque c'est moi qui forme, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le meilleur. Lui aussi, ou la personne qui est chargée de cette tâche, doit savoir avoir beaucoup d'humilité pour savoir reconnaître que c'est quelque chose qu'il a reçu. C'est pas quelque chose qui vient de lui. Et qu'en conséquence, celui de qui il a reçu peut toujours lui demander des comptes sur ce qu'il fait. D'une manière générale, notre façon de travailler dans l'Église et les différents services liés à ce travail, c'est des services qui sont là pour aider chaque chrétien à aller de l'avant, à avancer tous ensemble dans la croissance spirituelle. La prochaine fois, nous allons aborder la structure d'une église locale comme la nôtre. Alors nous allons parler de la fonction d'anciens, de diacres, de différents responsables, des départements, etc. On va essayer de voir un peu comment nous pouvons servir Dieu, quels sont les différents services dans l'Église qui sont disponibles et comment on fait si on a envie de servir et que ça n'existe pas dans l'Église, etc. Toutes ces choses-là, on va en parler. Mais je voulais quand même terminer avec la conclusion qui est une conclusion générale où j'aimerais que nous comprenions que nous sommes tous au service de Dieu. Et notre manière de montrer que nous sommes au service de Dieu, c'est de nous mettre nous-mêmes au service des autres. Je suis là pour toi. Tu es là pour moi. Jamais je suis là pour moi. Jamais tu es là pour toi. Jamais. Et quand on commence à comprendre ça, on se rend compte que on a une autre façon de vivre la vie d'Église. Je vais terminer avec ce texte, Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 25. Regardez. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Conséquence, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Regardez ce qu'on a à faire. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Autre chose, veillons les uns sur les autres, pas faire comme Caïn et Abel. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter ou nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je suis là pour toi, pour que je puisse te pousser à aimer plus encore Dieu et à aimer plus encore les autres. Je suis là pour toi, pour que je puisse t'emmener à mieux servir de plus en plus le Seigneur et les autres. Je suis là pour ça. Tu es là pour ça à mon égard. C'est notre tâche. Et vous voyez que nous, on est loin du compte, hein, parce que les médisances, on aime bien ça. C'est un bonbon, hein. On aime bien manger ça, hein. Autre chose, dernière chose ici. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. La loyauté, le fait d'être fidèle à l'Église. Moi, j'aime pas beaucoup parler de ça parce qu'on a dit que je prêche sur ma chapelle. On chante de dire, ouais, vous devez rester fidèle à cette Église. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup parler de ça. Mais ça reste une vérité biblique. L'attachement à son Église locale. C'est pas normal, ai-je dit, que quelqu'un n'ait pas une Église locale et qu'il commence à balader à gauche, à droite. Il fait du tourisme spirituel. C'est pas normal. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhorter est un mot riche de sens. Parce que dans le mot exhorter, tu as s'encourager, tu as se conseiller, tu as donné des recommandations, tu as aussi supplié, tu as aussi guidé, etc. Tu as beaucoup de mots à travers l'exhortation. Exhortons-nous réciproquement. C'est-à-dire, encourageons-nous, soutenons-nous, aidons-nous à ce que nous restions fidèles à notre Église. Mes amis, ce n'est pas l'Église qui doit se mettre à ton goût. Hein? C'est pas l'Église qui doit se mettre à ton goût. Ouais? Non? Vous êtes d'accord? Ne dites pas vite d'accord, hein? Mais c'est vous qui devez vous mettre au goût de l'Église. Sauf si ce goût n'est pas biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui disent, je veux être membre dans ton Église, mais à condition que ça fait ça. Alors je viens dans ton Église. Autrement, je ne viens pas. Je suis désolé. Nous allons terminer là. C'est la réflexion de ce matin. Et je vais vous demander simplement de vraiment regarder à vous-même et dire, voilà, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui me parle aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui à demain servir mieux Dieu? Demain, être ce chrétien qui est là pour le Seigneur et pour les autres conformément à ce que le Seigneur demande dans sa parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Te demandons de nous aider à la vivre pleinement et totalement et à faire de ta parole une réalité de notre vie sur laquelle nous nous conformons chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à être ces chrétiens qui vont avoir de l'impact dans notre société d'aujourd'hui, dans notre commune d'Ottigny. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.